Bonjour, je suis Enola Conrad, chargée des relations avec les usagers et les associations. Je vais vous présenter la capsule Maison des usagers et des associations qui aura lieu en octobre 2022. La Maison des usagers et des associations, autrement dit les MDUA, permettent de concrétiser la notion de démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire en établissement de santé vise à associer l'ensemble des acteurs de santé et notamment les usagers à ces projets. Les MDUA favorisent l'implication réelle des usagers en partenariat avec les professionnels de santé. Les MDUA ont plusieurs caractéristiques. Elles sont un lieu d'information sur les pathologies et les associations. Elles sont un lieu d'écoute et d'échange. Elles sont un lieu au service des usagers et projets portés par les patients, et également à disposition des patients partenaires. Plusieurs acteurs la constituent. Tout d'abord, les usagers, qui sont à la fois les patients, leur entourage, les représentants des usagers qui sont adhérents d'une association reconnue par l'ARS et les patients partenaires. Mais il y a aussi les associations. Moi-même, en tant que chargée des relations avec les usagers et les associations, ainsi que les professionnels de santé et notamment les pilotes et référents de la thématique droit des patients. La MDUA au sein des 15-20 se situe 24 rue de Charenton, à côté de l'entrée de l'hôpital. Il est directement accessible depuis la rue et est ouvert sur l'extérieur avec la présence de baies vitrées. Mais le projet MDUA va bien au-delà de ce lieu. Des projets seront co-construits avec les usagers et notamment les patients partenaires, les associations et les services de soins. Par exemple, il peut y avoir des projets de permanence d'associations au sein de l'établissement, de groupes de parole, d'organisation de journées à thème, de travail thématique. Concernant les associations, un recensement des associations en lien avec la déficience visuelle et le handicap a été initié. Des liens se créent, les associations envoient de la documentation et envisagent des partenariats avec les 15-20. Ces associations ont plusieurs missions, telles que l'accompagnement des patients et de leurs familles, l'animation et les loisirs, le soutien à la recherche, le soutien face à la maladie, l'information sur les droits des patients, la veille juridique, etc. Les associations partenaires en date du 15 août 2022 sont Accessi-Jeux, Association France Glaucome, Association OVR, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, Inflameuil, les auxiliaires des aveugles, les doigts qui rêvent, les miroirs volants, Retina France, l'Union des aveugles et déficients visuels, UNADEV, et l'association Valentin Ahuy. Concernant les droits des patients, nous pouvons tout d'abord les aborder sous la thématique droit de la personne. Il y a ainsi le respect de la dignité de la personne humaine, qui se définit par un ensemble de principes. La primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain, ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine, comme il est dit dans la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994. Il y a aussi le droit à l'accès aux soins et au choix du médecin. Le patient peut choisir son médecin ou l'établissement de santé et bénéficie du droit à la continuité des soins. Il y a également le droit à la non-discrimination. Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, comme il est dit dans l'article L1110-3 du Code de la santé publique. Par exemple, aucun professionnel de santé ne peut refuser de donner des soins pour un motif tel que l'origine, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou encore la religion. Il y a également le droit à l'information. L'information est un préalable au recueil du consentement libre et éclairé. Il s'agit d'informations sur son état de santé, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. L'information doit être claire, loyale et appropriée. Elle doit être délivrée au cours d'un entretien avec le patient afin de permettre à ce dernier de comprendre ce qui lui est proposé et de poser les questions légitimes que le traitement entraîne. Il y a plusieurs exceptions, telles que l'urgence vitale ou encore l'impossibilité d'informer. Le patient peut opposer son refus ou peut avoir ses facultés cognitives qui sont altérées. Le médecin peut alors contacter la personne de confiance. Il y a également le respect du consentement. Le consentement aux soins s'entend comme la liberté de consentir à un acte et celle de refuser d'y consentir. Toute personne a le droit de refuser un traitement et qu'aucun acte médical ou traitement ne soit réalisé. Le consentement peut être retiré à tout moment. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. L'article L1111-4 alinéa 2 du Code de santé publique précise « Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité ». Dans cette démarche, le soignant s'efforce de recueillir l'adhésion du patient à son projet de soins qu'il construit avec lui. Seule l'existence d'un délai raisonnable, non défini par les textes, permet de considérer que l'urgence vitale qui impose au professionnel d'agir immédiatement constitue la seule exception à l'obligation de recueillir le consentement et de respecter la volonté du patient. Un acte invasif est égal à un consentement. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une information orale lors d'un entretien et de remettre une fiche d'information. Cette fiche doit être retournée, signée et tracée dans le dossier patient. Nous pouvons passer ensuite, après les droits de la personne, aux droits de l'usager et du citoyen. Il y a ainsi le respect des libertés publiques. La liberté d'aller et venir. L'usager est libre de ses faits et gestes, et notamment d'aller et venir dans l'enceinte, hors cas spécifique. Il y a également le respect des croyances religieuses. Les patients doivent pouvoir suivre les préceptes de leur religion. Cependant, pour des raisons de sécurité et d'organisation du service, cette liberté religieuse doit être compatible avec le respect des autres droits, notamment la tranquillité des malades, ainsi que la qualité des soins et l'égal accès aux soins pour tous. Il en va de même concernant la tenue vestimentaire, qui doit être compatible avec les règles d'hygiène et de sécurité. Il existe un service d'aumônerie au sein des 15-20, au niveau de la chapelle, ainsi qu'une liste des officiants des différents cultes. Parmi les droits de l'usager et du citoyen, il y a également ceux relatifs aux plaintes, contentieux et à l'indemnisation. Lorsque l'usager s'estime victime d'un préjudice, il peut faire une réclamation, avoir recours aux représentants des usagers, à la commission des usagers et aux médiateurs, être entendu par le CRUA ou un responsable de l'établissement, demander réparation devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la CCI, faire connaître sa situation à la défenseur des droits, agir en justice. Parmi les autres droits, il y a également le droit à la représentation des usagers du système de santé, au niveau régional et au niveau national. Les usagers du système de santé sont représentés dans les conseils des différentes agences sanitaires, l'Agence régionale de santé, l'ARS, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, la CRSA, la Conférence nationale de la santé, la CNS, la Haute Autorité de Santé, la HAS, mais aussi dans le Conseil d'administration de l'ONIAM et dans les CCI où ils participent à l'examen des dossiers. Il y a également la représentation des usagers du système de santé au sein d'un établissement de santé. Les usagers sont représentés à travers la désignation de 4 représentants des usagers, RU, par le directeur général de l'ARS. Ces personnes sont proposées par des associations agréées. Ils sont les porteurs de la parole des usagers, veillent au respect de leurs droits dans les commissions et instances dans lesquelles ils ont été mandatés, notamment dans la commission des usagers. Ils peuvent être contactés par les usagers à tout moment, par mail à l'adresse représentantsdesusagers@15-20.fr ou par téléphone. Monsieur Denis de l'association Les Petits Frères des Pauvres est joignable au 06 73 22 24 61. Madame Noëlle Rieux, de la Ligue contre le cancer, est joignable au 06 70 52 81 50. Monsieur Le Goff, de l'association Valentin Ahuy, est joignable au 06 63 92 39 68. Et Monsieur Laforêt, de l'Association nationale des retraités, est joignable au 06 14 11 61 22. La commission des usagers, autrement dit CDU, est une instance de l'hôpital permettant de renforcer la place des usagers. Parmi ses missions, il y a veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches, examiner les réclamations, médiations et contentieux, analyser les résultats des enquêtes de satisfaction, participer à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge, rédiger un rapport annuel d'activité transmis à l'ARS. Au sein des 15-20, elle est composée du représentant légal de l'hôpital, des médiateurs, des représentants des usagers, de l'équipe de direction, du service qualité patientèle, du président de la commission médicale d'établissement, ainsi que des invités. Tous sont astreints au secret professionnel. La parole des usagers occupe une place importante au sein des 15 ans. Celle-ci est apportée par les réclamations, les médiations et les enquêtes de satisfaction. Concernant les réclamations, leurs modalités d'arrivée sont le courrier, les mails, les formulaires en ligne, le téléphone ou une rencontre physique. Elles sont classées selon les catégories de l'Agence régionale de santé qui sont accueil et administration, prise en charge médicale, prise en charge paramédicale, vie quotidienne et environnement, respect de la personne. Concernant leur traitement, un accusé de réception est envoyé au patient, puis la réclamation est envoyée au professionnel concerné pour demander des éléments de réponse. Ensuite, un courrier de réponse est envoyé au patient. Si nécessaire, une médiation peut être organisée. Concernant les médiations, l'usager a la possibilité de saisir les médiateurs médicaux ou paramédicaux selon les griefs invoqués. Une médiation est un entretien visant à compléter les informations fournies au patient, qui peut être accompagné d'un représentant des usagers. Si nécessaire, les voies de recours possibles sont présentées. Le médiateur rédige un compte-rendu de cet entretien qu'il adresse aux membres de la CDU et aux patients. Il présente le sujet lors des commissions des usagers. Les enquêtes de satisfaction font partie intégrante de la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et de l'expérience patient. Au sein des 15-20, elles diffèrent selon le type de prise en charge. Suite à une hospitalisation ou un séjour ambulatoire, il y a un questionnaire national ISATIS envoyé par mail. Suite à une consultation, un passage aux urgences, au laboratoire, en pharmacie ou en imagerie, il y a une enquête interne qui est envoyée par mail également, ou scannée grâce à un QR code disponible dans les salles d'attente ou récupérée sous format papier à l'accueil. Les résultats des enquêtes de satisfaction sont affichés dans les salles d'attente et présentés aux équipes. La parole des usagers au travers des réclamations, des éloges, des médiations, des enquêtes de satisfaction et des avis sur les réseaux sociaux est analysée en commission des usagers. Ces analyses sont quantitatives, qui correspondent à un pourcentage de satisfaction, et qualitatives, à part points positifs et négatifs. Une analyse des verbatims est opérée par une intelligence artificielle de la société Better World qui mesure la satisfaction des patients en décryptant leurs sentiments et leur vécu expérientiel. L'hôpital des 15-20 porte une attention particulière à la parole du patient. Grâce à celle-ci, des actions sont mises en place pour améliorer les conditions d'accueil et les droits des patients. Pour aller plus loin concernant la maison des usagers, il y a une circulaire DHOS/E1 numéro 2006-550 du 28 décembre 2006 relative à la mise en place des maisons des usagers au sein des établissements de santé. Pour aller plus loin concernant les droits des patients, il y a la loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Plus précisément, concernant la non-discrimination, il y a l'article L1110-3 du Code de la santé publique. Concernant le droit à l'information, il y a l'article L1111-2 du Code de la santé publique. Concernant le respect du consentement, il y a l'article L1111-4 du Code de la santé publique. Pour aller plus loin concernant la commission des usagers, il y a l'article L1112-3 du Code de la santé publique. Je vous remercie pour votre attention. Notre rencontre du 18 octobre de 18h30 à 20h permettra d'approfondir les points qui vous ont posé question.